fait, c'est une sorte de synthèse d'articles qui sont parus dans le dossier donc qu'on a publié sur Pop en Stock sur la figure de l'imaginaire des reptiliens. Et je vais tout simplement attirer donc l'attention sur quelques-unes des premières figures des reptiliens comme contribution à ce débat. Donc, radoter un peu, je pense que aussi, on a de moins en moins de temps de faire de la recherche, les profs, et finalement, on est bien tenu de revenir un peu sur nos dadas à un moment ou à l'autre. Donc, voilà, je vais sauter un peu, mais vous pourrez regarder, ça se décline sur une série d'articles, et ici, c'est donc plutôt un survol de la question de comment on en est venu donc à représenter ces êtres. Donc, nous sommes envahis par les reptiliens, non pas comme le prétendent les conspiranoïaques depuis 3 décennies, par des créatures de l'ombre qui nous manipulent depuis les plus hautes instances qui régissent le nouvel ordre mondial, mais par le nombre croissant de ceux qui y croivent. Selon un article paru en 2013 dans The Atlantic, 12 millions d'États-Unis étaient déjà convaincus que des lézards dirigent leur pays, c'est pas rien. Et par la figure fictionnelle des hommes lézards, dont les premiers s'inspirent, voulant à tout prix lui donner vie. Il suffit de survoler les pages de la Bible Popologic TV Tropes, dévolue aux diverses variations de la figure. Donc, vous avez plusieurs pages et vous avez les liens dans les articles Pop en Stock où vous pouvez vous amuser pendant des heures dans ce labyrinthe qu'est TV Tropes. Donc, les articles Lizard Folk, voire Reptiles are Abhorrent, sans parler des Snake People ou des Draconic Humanoids, pour y voir décliner au bas mot plusieurs centaines d'itérations. Presque tous les cadres de fantasy avec des races de fantasy standards sont destinés à avoir un groupe de ces gars-là, lit-on dans l'entrée dévolue aux Lizard Folk. Il s'agit d'une race civilisée ou semi-civilisée de lézards humanoïdes qui peuvent être des humains écailleux, des grands lézards bipèdes, des petits dinosaures et tout ce qui se trouve entre les deux. Malheureusement, ils font presque toujours partie des méchants et même quand ils ne sont pas toujours chaotiques et méchants, ils constituent généralement des antagonistes. La plupart des humanoïdes reptiliens entrent dans cette catégorie, à l'exception notable des lamias, des nagas et des gorgones, qui appartiennent généralement à la catégorie de la jante serpentine. Alors, dans TV Trope, chacune de ces catégories renvoie à des hyperliens, donc il y a un côté qui rappelle évidemment les hétérotopies telles que les avait évoquées Foucault à partir de Borges, et de la réflexion de Borges sur l'encyclopédie chinoise où il y aurait différents types de créatures, etc., etc. Et donc, une sorte de classification qui défie totalement les classifications encyclopédiques occidentales ou rationalistes. Et TV Tropes pousse cela très loin grâce à la technologie donc, d'Internet. Et donc, chacune de ces catégories que je viens d'évoquer, ça ouvre sur des hyperliens. Donc, ces reptiliens se divisent généralement en deux types. Les grands types musclés et brutales, je cite toujours souvent d'apparence dinosaurienne ou crocodilienne, et le type plus petit, plus maigre et plus typiquement reptilien, généralement le plus sympathique des deux, mais pouvant être à la tête d'une conspiration reptilienne maléfique. Lorsque les hommes serpents sont dotés de pattes arrière, ils ne sont généralement que des hommes lézards avec des crocs. Si on leur donne une culture ou une civilisation, attendez-vous à ce qu'ils vivent dans une jungle, un marais ou plus rarement un désert, qu'ils soient assez primitifs et tribaux et qu'ils utilisent divers reptiles plus grands comme bêtes de sang. De fait, ces reptiliens sont le plus souvent décrits comme, je cite encore, une race très ancienne, bien plus vieille que l'humanité. Dans ces représentations, ils ont autrefois régné sur le monde avant l'apparition des peuples à sang chaud, rappelant ainsi que l'âge des reptiles a précédé l'âge des mammifères. Dans ce cas, ils pourraient être considérablement plus civilisés, ou plutôt ils l'étaient dans le passé, mais sont maintenant à un fragment mourant et dégénéré d'une civilisation puissante. Comme les lézards sont exotiques, leurs civilisations ont tendance à être basées sur des civilisations réelles considérées comme exotiques. Au premier abord, cette obsession contemporaine a de quoi surprendre. Contrairement à quantité de monstres composites, dont on a déjà parlé, surtout dans ton introduction à l'autre colloque, homme-poisson, homme-crapaud, homme-chevaux, etc., etc., ainsi de suite. Enfin, bon, toutes les combinatoires sont possibles. La figure de l'homme-lézard semble privée du riche pedigree qui remonte de ceci aux hybridations primordiales des anciennes cosmogonies, puisque c'est de ça qu'il est question dans toutes ces figures. Si les figures reptiliennes abondent dans grand nombre de mythologies, c'est sous la forme prédominante du type de l'homme ou la femme serpent. Du premier roi d'Athènes, Kécrops, à la foisonnante saga des Nagas hindous, en passant par Typhon ou le Tlatoc aztèque, les hommes serpents ou les serpents anthropomorphisés témoignent de l'évolution d'anciennes hiérophanies ophidiennes. La variante féminine est tout aussi riche de l'échidna grecque, petite fille de la terre, génitrice de monstres célèbres tels que Cerbère, l'hydre de Lerne ou la chimère, à la wadjet égyptienne, en passant par la nuwa chinoise, qui forme un couple primordial avec son frère Fuxi, également serpentin. Plus circonscrite, la tradition connexe des hommes-dragons constitue une sorte de sous-variante, spécialement chérie en Chine, Shenlong, les dieux-dragons, etc. Donc, par ailleurs, l'Occident sera toutefois marqué par une démonisation progressive du serpent, associée au récit biblique de la chute, bien sûr, dont les représentations ultérieures fusionneront souvent en une même représentation, Satan et l'animal tentateur. Sous l'influence iconographique des monstres ophidiens, féminins, de l'ère hellénistique, notamment les lamis, l'art chrétien va développer un curieux syncrétisme. Et John Bonnell a retracé dans un article extrêmement érudit les origines et l'évolution du motif du serpent édénique à tête de femme, dont l'illustration la plus célèbre reste celle de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, et que l'on retrouve dès le XIIe siècle dans des textes comme Estor, Vincent de Beauvais, Guido de les Colonnes, etc., et dès le XIIIe siècle dans l'art, 1280, Benjamin le Scribe. Donc, la célèbre représentation de la chapelle Sixtine, qui a nourri quantité d'interprétations absolument de toutes sortes. Et il y aurait tout un livre à faire juste sur les interprétations de cette scène dans la Sixtine. Outre le fait de la position extrêmement ambiguë de Ève par rapport à Adam, etc., etc. Le lien, évidemment, aussi avec l'autre grand geste des mains qui se rejoignent, qui est à l'envers. Donc, l'anthropomorphisation du reptile maléfique pouvait prendre des aspects résolument tératologiques, comme dans la surprenante tentation d'Hugo van der Goes qu'on vient de voir, antérieure aussi à Michelangelo, visiblement marquée par la tradition des bestiaires, dont continue à se nourrir l'iconographie monstrueuse contemporaine. Fusion ultime de l'animal, du malin et de la femme tentatrice, cette image emblématique va profondément hanter l'imaginaire, et c'est là sans doute de sa polarisation négative dont hériteront les reptiliens conspiranoïaques. Elle entre aussi en résonance avec la tradition tout aussi riche de Lilith, bien entendu, associée à la lamie grecque dès la Vulgate du 5e siècle. Parent pauvre de ces monstrueuses mais prestigieuses créatures, le lézard semble, lui, condamné à une existence bien plus modeste, à l'ombre des grands systèmes symboliques et des récits mythologiques. C'est à peine s'il garde un vague écho de l'aura ophidienne. On pourrait considérer son symbolisme comme dérivé de celui du serpent, dont il constituerait une expression atténuée, écrivent Jean Chevalier et Alain Guillard-Brandt dans leur célèbre et quelque peu trompeur Dictionnaire des symboles. C'est un grand classique de tous nos étudiants depuis des années, des décennies, mais en fait, bon, il faut quand même prendre ça avec un grain de sel, il faut surtout aller voir leurs sources, parce que c'est un peu un bric-à-brac, avec bien sûr le grand plaisir des bric-à-brac, on ne va pas bouder notre plaisir, mais c'est vrai que quand on veut analyser un mot en utilisant la symbolique lunaire d'une tablette assyro-babylonienne, bon, il y a un petit problème de raccourci. D'où vient alors la promotion contemporaine de l'homme-lézard ? Comment a-t-on pu passer des hommes serpents des anciens mythes à cet hybride quelque peu cocasse? Parmi les rares chercheurs qui se sont intéressés à la figure des reptiliens, Barkun y voit une origine relativement récente et résolument pop dans le célèbre magazine Pulp Weird Tales. Robert Howard, le créateur de Conan, y publie en août 1929 The Shadow Kingdom, récit de Sword and Sorcery, épée et sorcellerie, où l'Atlante Cool, l'autre grande figure, combat une série d'hommes serpents métamorphes. Or, outre le fait que c'est encore une fois la prestigieuse symbolique ophidienne qui domine, ce n'est pas là le premier récit à mettre en scène des hybrides reptiliens affranchis des références aux mythologies anciennes. En fait, il y a eu une longue transition qui n'est par ailleurs pas entièrement finie, les deux formes continuant désormais des chemins distincts, où l'on est passé de l'hégémonie de la référence ophidienne classique à la forme moderne des hommes lézards, marquée non plus tant par une nostalgie des modèles mythologiques anciens, mais par une hantise de l'hybridation tératologique, qu'elle soit atavique dans les mondes perdus ou carrément extraterrestre dans la science-fiction. C'est ce que je voudrais rapidement évoquer dans le cadre limité de cette communication, me permettant de renvoyer à la série d'articles que j'ai écrit sur le sujet dans la revue en ligne Pop en Stock, donc Les Reptiliens sont parmi nous, enquête sur un mythe complotiste. Alors, je vais passer un peu vite parce que de toute façon, comme je dis, c'est dans les textes. Et juste un peu attirer donc votre attention sur quatre figures. La première, c'est ce que, à ma connaissance, serait la première mention d'homme lézard dans l'ouvrage très méconnu de Edward Fawcett, The Ghost of Guy Thurlow, publié en 1895. Étrange variation autour du récit de fantôme, chéri de l'époque victorienne et édouardienne, qui s'inscrit dans le sous-genre du voyage astral interplanétaire qui accompagna, comme l'on sait, l'engouement pour le spiritisme à la fin du 19e siècle. Et dans son périple astral, Guy Thurlow rencontre au milieu d'un vaste catalogue de créatures intersidérales une population de lézards intelligents, vaguement anthropomorphisés. Et je ne vais pas entrer dans les citations, malheureusement, c'est ça qui est le plus savoureux souvent, mais dans les textes académiques, mais je n'entrerai pas dans les détails, vous l'avez dans les textes. Il avance donc, on reconnaît dans son texte la rhétorique de l'altérité radicale qui va dominer l'esthétique extraterrestre. Et l'idée, c'est que non seulement ces êtres existent, mais là, je cite quand même, les lézards qui avaient acquis sur tous leurs voisins animés une préséance qui paraissait si extraordinaire à Guy, le voyageur astral, l'émerveillaient par le progrès social et intellectuel de leurs diverses nations. Physiquement, ils le repoussaient, même dans leur état avancé et hautement cultivé, bien qu'ils perçussent qu'ils avaient leurs idéaux de beauté, et ils ne doutaient pas que s'ils avaient vu l'une des formes les plus enchanteresses de la beauté terrestre, disons la Madone Sixtine ou l'Apollon du Vatican, ils l'auraient traitée avec indifférence ou peut-être avec mépris. Et l'on reconnaît là donc toute l'esthétique et la rhétorique et l'imaginaire de l'altérité de ces créatures extraterrestres qui sont l'antithèse de l'anthropomorphisation. Et ce sera un des grands vecteurs de l'imaginaire extraterrestre, et c'est quelque chose qui va évidemment hanter les hommes lézards. Et l'homme, sur ce petit grain qu'il appelle Terre, a osé se dire le seigneur de la création. Ces lézards sont autant d'hommes que lui, et même à bien des égards, supérieur à lui. Malheureusement, pris par la frénésie du catalogue et le vertige du voyage interplanétaire, le texte n'accorde qu'un intérêt tout passager aux reptiliens. Rien ne laisse donc présager la place que ces derniers vont prendre dans l'éclosion de la pulp fiction états-unienne dans les années 1920-1930. Et c'est là vraiment, je pense, jusqu'à preuve du contraire, que la figure commence à prendre forme. Bien qu'il soit très difficile de se prononcer de façon définitive sur l'immense jungle de la production industrielle des pulps, autant de par l'ampleur colossale du corpus, comprenant des centaines de milliers de pages, que par la difficulté d'y accéder, malgré le travail inappréciable de numérisation en cours sur le web, beaucoup d'entre eux sont disparus par ailleurs, la première variation significative que nous trouvons sur les reptiliens provient d'un classique des mondes perdus, At the Earth's Core, du célèbre créateur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs. Et ce texte se situe, publié 2 ans après Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle, ce texte se situe à un tournant important des genres de la littérature de l'imaginaire. Il prolonge l'engouement pour les récits de mondes perdus qui, depuis Rétif la Bretonne au moins, avaient accompagné l'ère des empires au terme de Eric Hobsbawm, mais face au rétrécissement croissant du monde inexploré, ce que Jack London baptisa comme le rétrécissement de la planète en 1900, il projette de plus en plus ces espaces dans une sorte d'ailleurs absolu, multipliant les merveilles. Par là, il accompagne à la fois l'éclosion de la fantasy moderne, dont on peut dire qu'elle se construit en grande partie en libérant ces mondes de fantasy du cadre enchâssant qui y mène les naufragés de la modernité, et d'une certaine science-fiction, mais ou plutôt science fantasy, qui extrapole dans les planètes de l'espace extérieur les créatures étranges de ces mondes perdus, ce que Burroughs lui-même venait d'inaugurer avec le premier volet de son cycle martien « Under the Moon of Mars », donc souvent considéré comme le texte, pas le premier nécessairement, mais le texte qui lance vraiment le space opera en 1912. Le glissement vers le fantastique n'altère nullement la nature originelle du roman aventure, écrit Laurie Guillot dans son étude sur l'aventure mystérieuse. En le nourrissant de composantes fantastiques ou merveilleuses, les romanciers comme Burroughs ne font que le ressourcer, élevant leurs propos au niveau du mythe, la quête d'un monde fabuleux, et conférant à leurs protagonistes l'aura fascinante de l'héroïque et du surhumain. L'aventure redevient mystérieuse, conformément à ses origines. Le voyage se mue en quête, l'explorateur en myste, c'est-à-dire en candidat à l'initiation. Les régions encore vierges continuent de receler donjons et dragons. Une installation plus ou moins contrôlée d'éléments fantastiques sera ainsi garante du renouveau du genre en ce siècle paradoxal qui voit s'aménuiser sur le globe les territoires du rêve et du mystère. Fin de citation. C'est dans ce contexte de réinvention du merveilleux traditionnel au sein du roman de l'aventure mystérieuse que se situe le premier volet du cycle consacré à Pellucidar, variation autour du mythe de la Terre creuse. Ce monde perdu au centre de la Terre radicalise le thème des fossiles vivants inauguré par Jules Verne et parachevé par Conan Doyle en le poussant vers une forme nouvelle de fantastique. En effet, c'est à une prolifération de créatures monstrueuses d'un nouveau genre que l'on est confronté au-delà ou en marge du schéma paléontologique suivi par ces illustres modèles. Pellucidar est notamment régi par des créatures antédiluviennes, intelligentes et ailées, les sadiques Mahar. L'anthropomorphisation de ces créatures est marquée non pas tant par leur physique, mais par les formes de socialisation et de contrôle qui jouent à la fois sur la reconnaissance et la défamiliarisation. Et on reconnaît un peu le fantasme qu'on avait déjà vu dans le premier texte. On reconnaît dans leur système brutalement esclavagiste le thème historiographique du despotisme oriental cher à Wittfogel. Leurs villes souterraines témoignent d'un haut degré de planification et sont bondées comme les métropoles européennes de l'époque. Ils sont dotés d'un étrange langage qui crée toutefois une dissonance cognitive. Ils connaissent aussi l'écriture et accumulent les archives anciennes de leur race dans une vaste bibliothèque. Ce sont ici ces créatures qui se livrent à des expériences d'eugénisme. Ils ont provoqué l'extinction des mâles, devenus inutiles une fois leur rôle reproducteur remplacé par la chimie. Reflet de l'angoisse de l'époque à l'égard de la dévirilisation, marquée par le spectre des suffragettes, perçues comme des pionnières d'un retour au matriarcat, ce motif montre aussi la faille de la domination reptilienne. Il s'agira de se procurer le secret de cette formule secrète, évidemment, pour, je cite, « placer les hommes du monde intérieur à leur juste place parmi les choses créées », donc pour réinstaller l'ordre anthropomorphique de l'anthropogénèse. Alors, il y a toute une théorie de l'évolution parallèle et ça rejoint toutes les obsessions du darwinisme qu'on trouve dans beaucoup de textes du monde perdu, mais toujours pour amener à cette idée très, très étrange d'une culture primitive, ancestrale, avant les humains, qui aurait été celle de ces reptiliens intelligents, et s'opère la même relativisation radicale du schéma anthropomorphique, anthropocentrique. Ici, ce ne sont pas des monstres, je cite, « ici, ils sont la race dominante, nous sommes les monstres, les ordres inférieurs. Ils nous regardent comme nous regardons les bêtes de nos champs, et j'apprends par leurs écrits que d'autres races de Mahar se nourrissent d'hommes, ils les élèvent en grand nombre, comme nous élevons du bétail. Ils les élèvent avec le plus grand soin, et quand ils sont bien gras, ils les tuent et les mangent. Qu'y a-t-il d'horrible là-dedans, David? Ils ne nous comprennent pas mieux que nous comprenons les animaux inférieurs de notre propre monde. » Cette inversion de la domination trouve son parachèvement dans l'une des scènes les plus inquiétantes du roman, celle qui présente les sacrifices humains du temple des Mars. Et c'est ce qu'on voyait tantôt avec l'imaginaire donc de l'étrange rituel où ces créatures hypnotisent leurs victimes, hommes et femmes des cavernes préalablement engraissées, qui viennent les rejoindre sous l'eau pour s'y faire peu à peu dévorer morceau par morceau. Et c'est la scène qui va, cette scène cauchemardesque, héritière de l'esthétique de la cruauté chère à la décadence fin de siècle, qui va le plus fasciner les illustrateurs par ce qu'on a vu. Et par là, Burroughs inaugure le type du reptilien sadique dont héritera bien plus tard le complotisme et le célèbre théoricien contemporain des reptiliens, d'où vient toute la théorie du complot des reptiliens, David Icke. Et d'ailleurs, il y a d'autres exemples de cruauté de ces reptiliens, comme les vivisections qu'elles opèrent et l'inversion totale du rapport entre l'homme et l'animal dans le contexte, rappelons-le, de la polémique qu'il y avait à cette époque-là autour de la pratique médicale de la vivisection. Ce sera là aussi transposé dans le contexte extraterrestre un thème dominant des récits d'abduction repris par Icke pour construire son mythe reptilien. Il est fort probable que les Mahar aient joué un rôle majeur dans la genèse du premier récit consacré à ce que deviendra le mythe ou le cycle de Cthulhu, The Nameless City de 1921 de Lovecraft, placé sous le signe des reptiliens. Alors, je vous renvoie aussi à l'article. Le cadre est celui des récits de mondes perdus. Découvrant une cité souterraine couverte par le sable du désert, le narrateur plonge dans un souterrain initiatique où il va rencontrer des créatures momifiées qui sont des reptiliens composites. Il va y avoir donc, évidemment, comme toujours chez Lovecraft, un glissement progressif vers le fantastique. On va découvrir des inscriptions mystérieuses, thème que l'on retrouve à la fois dans beaucoup de mondes perdus et souvent chez Lovecraft, qu'on peut déchiffrer le passé de ces créatures, et il ne parvient pas à comprendre, le narrateur, ce que le lecteur implicite, notamment celui qui connaît Lovecraft, a déjà deviné, soit le sens littéral de ces images, c'est-à-dire que ces créatures ont bel et bien existé, et c'est là où la théorie des mondes perdus et de Lovecraft et des autres qui vont suivre est une modernisation finalement de ces mythologies et de ces créatures mythologie anciennes, en supposant justement que c'était des créatures qui représentaient bel et bien des non pas des symboles, etc., mais des êtres monstrueux, et ça va donner lieu à toute la vague du mythe des anciens astronautes, ou aussi appelés Ancient Aliens, des anciens extraterrestres, sur laquelle j'ai aussi beaucoup parlé dans mon dernier livre sur les monolithes et 2001 de l'Odyssée de l'espèce, espace et de l'espèce, justement, où je parle de ça. Alors bon, il va y avoir toute une histoire typiquement lovecraftienne où de retour du refoulé, où ces créatures reviennent, et elles ne sont pas seulement donc gravées dans la pierre, mais elles existent encore. On peut dire que ces deux textes inaugurent donc ce qu'on peut appeler le début du règne des reptiliens sur l'imaginaire pulp. Alors là, je vais complètement passer très vite, mais juste rappeler que donc dans ma généalogie, dans ma genèse de ces figures, il y aurait encore deux autres textes très très importants, cités engloutis et monde perdu lovecraftien, qui est parmi les premiers donc textes que j'évoquais. Et puis donc un grand classique aussi des mondes perdus, où vous voyez la figure de la femme serpent réapparaître, de Snake Mother, donc femme serpent qui a toute une mythologie à elle. C'est encore une fois elle qui fascine les illustrateurs dans les différentes couvertures consacrées à cette figure. Sans cesse, toutes les éditions devenues très cultes et souvent très chères aussi pour les collectionneurs insistent sur la fascination de cette mère serpent qui en fait renouvelle, reprend, vulgarise selon différentes point de vue, d'angle, l'imaginaire, évidemment, de la femme associée au serpent, voire de l'hybride de la femme serpent. Donc, il y a d'un côté la femme serpent, donc la mère serpent, donc la déesse mère, qui appartient à cette race éteinte de ophidiens intelligents qui ont apporté la civilisation, etc., etc. Et puis, il y a une autre créature moins illustrée, beaucoup moins, qui a captivé moins les illustrateurs dans le même texte, mais qui pour nous est très importante, ce sont les Urdes, donc qui sont plus proches. Là, on est entre le Batracien, mais dans le texte, c'est plutôt lézard, donc homme lézard, homme batracien, c'est encore un autre débat autour de ces créatures. Et dans Le Monde perdu de Hugh Atlantki, donc on reconnaît évidemment la référence au mythe de l'Atlantide, un continent souterrain. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, on retrouve cette idée des inscriptions où on apprend quel est le passé de l'humanité littéralement, et qui est un passé de reptilien, et le prototype des hommes lézards à venir, c'est vraiment celui des Urdes que je viens de vous représenter. Donc, toute cette histoire des mondes perdus comme réservoir au début du XXe siècle, de tout cet imaginaire qui est en train de changer, dans une transition qui est vraiment intéressante, à la fois vers la fantasy d'un côté et vers la science-fiction de l'autre, à partir du récit d'aventure classique du type Voyage au centre de la Terre de Verne ou du type Les mines du roi Salomon de Rider Haggard. Et l'origine des hommes lézards, et c'est ça qui rejoint le complotisme contemporain, renvoie au fantasme, un véritable roman des origines au sens freudien aussi, mais à l'échelle de l'espèce. C'est l'idée que nous serions le résultat d'une Urzen, donc complètement monstrueuse, comme chez Lovecraft, une scène primordiale freudienne monstrueuse. C'est que ce seraient les expériences de ce peuple serpent et des anciens You Atlantins dans le remodelage de la vie qui aurait produit, donc à la manière de Mad Doctors, autre grande figure des pulps, qui se serait livré à des expériences d'hybridation eugénique dans une fantasmagorie qui relie l'anthropogenèse au fantasme biopolitique de l'époque. Et donc, c'est l'idée d'une autre origine qu'on va retrouver dans beaucoup de théories complotistes ufologiques, etc., etc., où l'espèce humaine serait le fruit soit d'une initiation par des catégories d'extraterrestres, soit le fruit littéralement de manipulation génétique. Soudain, Graydon semble regarder dans un tout nouveau monde d'un grotesque effroyable fantasmagorie de l'humanité jumelée avec les machines parfaites de la nature, alors qu'elle est encore placée dans l'œuf. Donc, à la monstruosité des hybridations eugéniques s'ajoute celle de l'hybridation sexuelle, menace toujours présente dans l'imaginaire des pulps. Et enfin, donc le dernier, le texte de Merritt va avoir une immense influence, ça va être un grand classique, ça va avoir une influence sur Le Seigneur des Anneaux, ça va avoir une influence sur plein de créations de littérature de l'imaginaire. Il va léguer au continent pulp et à la culture pop, qui en est largement redevable, un nouveau paradigme fantastique dont les reptiliens contemporains sont encore en partie héritiers. Mais le dernier jalon donc de ces naissances de la figure du reptilien, c'est bel et bien la nouvelle de Robert Howard que j'évoquais tantôt, de 1929. Alors, pour Barkon, c'est donc la nouvelle qui est fondatrice du type qui va triompher dans le complotisme. Techniquement, ce n'est pas faux, bien qu'il s'agisse d'hommes serpents et non d'hommes lézards, si l'on réduit les reptiliens complotistes à leur capacité d'assumer diverses formes. Car c'est bien là la modification essentielle qu'introduit Howard par rapport aux hommes lézards de Merritt ou les lézards intelligents de Burroughs, leur aptitude à la métamorphose et à l'infiltration. Au sadisme des Ma'ar et à la monstruosité des Lizardmen de Hugh Atlantis, s'ajoute ainsi une composante qui s'avérera essentielle, la paranoïa. Un mois avant le krach boursier qui allait plonger l'Amérique dans la Grande Dépression, ce Texan hanté par la dépression clonique offre ainsi, sous les traits fantastiques des reptiliens, un des visages d'un symptôme fondateur de la nation états-unienne depuis les procès de Salem. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que il y a toute l'analyse à faire donc qui est assez intéressante. Et puis un détail assez fascinant, c'est que c'est le texte de Howard qui va être utilisé par un type assez étrange qui signe Maurice Doréal, pseudonyme de Claude Diggins, qui va écrire un livret occultiste dans le circuit donc occultiste californien qui est en pleine croissance, un texte donc occultiste en 1939 qu'il va présenter comme la tablette émeraude de Thoth l'Atlante, qui va présenter comme une tablette qui aurait survécu à l'Atlante, à l'Atlantide, et qui donne donc pour la première fois le mythe des hommes lézards, totalement né dans les pulps, comme on vient de voir. Il lui donne un côté, une légitimité occultiste, et c'est de là que David Icke, bien plus tard, reprendra cette figure-là pour sa nouvelle fantasmagorie au tournant du millénaire, et que là, du coup, ça va devenir une croyance. Croyance, donc, pour revenir au tout début de la présentation, que plus de 12 millions d'États-Unis partagent en ce moment. Je vous remercie.